Merci Alain. Bonjour à tous. Manifestement, Mons a une faculté d'attractivité qui m'étonne, parce qu'avec les difficultés pour y arriver, vous êtes persévérant. C'est bien. Je vais vous faire un petit focus sur l'attractivité résidentielle principalement travailler sur la question, je dirais, du cadre de vie. Alors, c'est une thématique qui, dans la CPT, n'est pas nouvelle, puisque ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille sur l'attractivité et sur la question, notamment, de l'économie résidentielle dont on vous a parlé tout à l'heure. Souvenez-vous, je pense que certains d'entre vous étaient déjà présents lors des précédents colloques de la CPDT. Enfin, il faut remonter quand même il y a 10 ans. Donc, on capitalise, c'est bien, la CPDT, engrange une série d'informations et puis on revient dessus, c'est pas plus mal. Et notamment, on avait travaillé avec Laurent Davosiès, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait 3 colloques. Un premier à Louvain-la-Neuve sur justement l'attractivité résidentielle, un deuxième sur l'attractivité économique à Liège et un troisième sur l'attractivité, dont Marie-Françoise vous parlera après mon exposé, sur l'attractivité, je dirais, patrimoniale, environnementale, etc. Et suite à ce premier colloque à Louvain-la-Neuve, on avait sorti, l'équipe de l'époque avait sorti une publication et on avait déjà sorti une carte. Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais donc c'est simplement pour vous inviter à consulter le site de la CPDT, puisque toutes ces archives, si vous voulez, sont en accès direct. Et donc, on avait déjà classé l'ensemble des communes en fonction de leur dynamique économique et présentielle. Voilà, donc ça, c'est un élément sur lequel on peut jeter un nouveau coup d'œil, peut-être en rentrant chez vous ce soir. La CPDT avait aussi travaillé sur les stratégies des cadres de vie, donc il y a aussi 10 ans, peut-être que ça va percoler quand même, notamment sur cette question que peut faire du cadre de vie et l'attractivité. On avait travaillé sur la Haute-Meuse. Alors, je ne vais pas revenir non plus en détail sur cet exposé de la Haute-Meuse, mais qui était une manière, je dirais, de voir quelles sont les capacités à mobiliser différents acteurs qui assure la mutation de cette Haute-Meuse, une Haute-Meuse qui était, c'est vrai, touristique, qui, c'est vrai, est encore été industrielle, et où on avait fait un plan d'aménagement pluricommunal, maintenant. Bon, parfois, le vocabulaire change, mais les idées restent, qui était justement de pouvoir travailler sur une reconfiguration, une vision un peu de qualification de la Haute-Meuse avec différents acteurs touristiques, économiques, environnementaux. Et donc, il y avait même l'habitat et notamment aussi de se rendre compte qu'il y avait une capacité, c'est un terme qui a été utilisé ce matin dans le premier exposé, de mobiliser certains acteurs puisque la région wallonne possède et propriétaire de pratiquement un tiers de la surface des abords de la Meuse, d'abord la Meuse en elle-même et puis le Ravel et puis la route, etc. Et donc là, il y avait une capacité à mobiliser. Alors cette étude n'a pas totalement été perdue puisque elle a servi, je pense, dans certains schémas de structure des communes concernées et notamment aussi à la ville de Namur qui s'en est inspirée pour faire son RCU sur les villes à Meusanne. Et puis, dernière petite chose, c'est qu'il y avait déjà eu une étude, il y a aussi 10 ans, sur la question des quartiers de gare. Et il y avait un atlas qui avait été produit, avec une utilisation un peu originale des données. On a parlé de mobiliser des données ce matin. Ben, on avait eu, à l'époque, déjà les abonnements de la SNCB. On avait pu faire un tri très particulier. Donc, il y avait là aussi, je dirais, une capacité à voir comment les acteurs se complètent, quelles sont leurs pratiques. Et c'est un élément sur lequel je vais revenir. Et donc, il y avait une étude sur les quartiers de gare, comment densifier, comment organiser les différents quartiers de gare. Je pense qu'on reviendra sur cette thématique dans les prochaines années. Donc voilà, c'est un retour sur des choses qui existent. Alors, on n'est pas les seuls à travailler. Donc ce matin, on vous a parlé de l'IWEPS. Le focus sur la question résidentielle, l'IWEPS l'a développé dans un document qui est sorti il y a maintenant juste un an, donc presque 2 ans, puisque c'était en janvier 2016, et qui parfait des mobilités résidentielles. Et donc, on peut voir, si vous voulez, à travers les mobilités résidentielles, la capacité d'attractivité des communes, puisque c'est à travers les déménagements qui attire-t-on, quelles sont les communes qui attirent, et elles attirent des populations venant de quelles communes. Alors, c'est les mêmes données qu'on va utiliser par la suite, parce qu'on essaie un peu d'actualiser ça, mais c'était important de revenir sur ce papier, parce que je trouve qu'il est vachement intéressant. Donc, par exemple, ils ont fait un focus sur une série, en tout cas sur les 3 grands pôles, 3 grandes villes wallonnes, je sais plus très bien comment il faut dire, qui sont en fait Namur d'abord. Alors on voit sur Namur un phénomène assez classique. Les communes, Namur est en blanc puisqu'on parle de Namur, donc Namur a, je dirais, une capacité à attirer les populations venant des communes rouges. Hein, donc ce n'est pas nécessairement socialiste, mais Même c'est Charles Leroy qui est dedans. Bon, ouais, bref, il y a une série de communes là qui où il y a des déménagements. Donc la population quitte ces communes et vont s'installer à Namur. Donc il y a un phénomène, je dirais, d'attractivité quand même namurois qui est non négligeable. Alors dans Namur, ça c'est encore une autre question qu'on pourra peut-être approcher par l'avenir. Mais inversement, Namur a un phénomène de périurbanisation qui n'est pas nouveau, et on voit que ce sont les communes bleues là qui captent, donc la périphérie directe de Namur qui capte. Alors, pour Liège, c'est pratiquement la même chose, la même dynamique. Vous voyez que Liège va chercher des personnes à Namur, ce qui complète évidemment la carte, puisque des Namurois vont, on voit sur la carte du haut, à Liège, c'est en bleu. Et donc là, on voit que les communes wallonnes, les villes wallonnes, ont une capacité, je dirais, d'attirer de la population qui vient de communes parfois périurbaines. Donc tous les Wallons ne sont pas nécessairement accrochés et attachés à leur campagne, ils sont prêts à déménager pour aller habiter la ville. Puis vient la question de Charleroi, qui a une structure radicalement à l'air inverse. D'abord, Charleroi, vous voyez qu'il n'y a pratiquement personne qui se déménage pour aller habiter à Charleroi. C'est un défi monstrueux pour Charleroi. Et vous voyez que il y a un axe, je dirais, Sud-Brabant-Wallon, Nivelles, etc., Pont-à-Celle, des communes qui sont du Sud-Brabant-Wallon, où il y a un report vers Charleroi. Mais inversement, Charleroi lâche beaucoup. Donc, est en compétitivité avec énormément de communes, c'est-à-dire toutes les communes qui sont en bleu ou en bleu clair. Donc Charleroi, je dirais, il y a énormément de personnes qui peuvent trouver, je dirais, leur bonheur, si on va parler comme ça, parce que je vais un peu parler de sens, vous verrez, ailleurs. Par contre, ce qui est intéressant, et ça, c'est l'étude de la CPT qu'il avait montré, Mathieu Van Krikingen l'avait montré avec une analyse fine, grâce à l'utilisation, des bases de données sur le registre national, que ce sont des Bruxellois qui viennent habiter Charleroi. Et pas n'importe quel Bruxellois. Des gens de Molenbeek, d'Anderlecht, de Gent et de Laeken. Donc il y a un phénomène, je dirais, là, d'attractivité, mais qui n'est peut-être pas attractivité super souhaitée d'une classe moyenne qui voudrait habiter à Charleroi, comme certains voudraient le faire penser. Bien. Donc la réalité est parfois dure. La carte le montre ici. Donc ici, c'est l'ensemble des déménagements. Il faut savoir que globalement, vous voyez qu'il y a beaucoup de communes vertes. Donc les communes vertes sont les communes qui gagnent en population. Et au plus, elles sont la plaie brun, au plus elles ont augmenté en population ces derniers temps. Il reste deux communes rouges, Charleroi, on vient d'en parler, et Verviers, qui sont des communes, à la limite, où on part de manière forte. Ici, c'est un bilan. Donc il y a aussi des personnes qui arrivent. On l'a vu sur Charleroi. Il y a plus ou moins, si vous voulez, 350 000 personnes qui déménagent en Wallonie chaque année. C'est énorme. Et ce chiffre augmente. Donc il y a une mobilité résidentielle de plus en plus importante. Ce qui est important aussi, c'est que quand même, dans ces 350 000, il y en a quand même 38% qui déménagent dans la même commune. Donc ce serait intéressant de faire quand même un part entre les gens qui sont propriétaires et les gens qui sont locataires. Parce que je suppose qu'il n'y a pas une même dynamique sur ces choses-là. Mais donc, l'essentiel des déménagements se font d'abord dans sa propre commune. Et puis, c'est un peu les pommes qui tombent au pied de l'arbre, l'essentiel des personnes déménagent dans une commune qui est voisine de la commune où ils habitent. Donc il y a un attachement, je dirais quand même, de proximité qui est évident. Et puis il y a des phénomènes, je dirais, un peu complémentaires, puisqu'on a bien sûr des échanges avec Bruxelles, on a bien sûr aussi des échanges avec les communes étrangères, et il y a quelques Flamands, je vous montrerai tout à l'heure, quand même, qui viennent habiter en Wallonie, très peu de Wallons qui vont habiter à part la côte belge, si on peut encore parler de Belge. Enfin, bref. Alors, petit graphique pour montrer que le déménagement est en croissance. Donc, vous avez là la ligne bleue. Donc, effectivement, on était à 10% de la population qui déménageait. Aujourd'hui, on est à presque 12%. Et au-dessus, vous voyez que, par exemple, le Brabant Wallon est largement au-dessus en termes de déménagement. Donc, une tendance à la mobilité résidentielle qui s'accroît. Maintenant, je vais passer à un regard un peu complémentaire, si vous voulez, de celui que l'IWEPS avait fait. Bon, on n'a pas les mêmes chiffres que l'IWEPS, on n'a pas le même accès aux données, mais on a essayé quand même de cartographier ça, parce que c'est l'idéal, c'est que chaque commune puisse savoir qui elle attire et qui quitte. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire, si vous voulez, c'est simplement de croiser les communes dans cet ordre-là. Alors ici, première carte, c'est les déménagements qui ont lieu justement dans les communes voisines. Vous avez vu que c'est un chiffre important, je viens d'en parler. Et donc on voit quelles sont les communes qui ont perdu. C'est toutes celles qui sont en rouge. Et il n'y a pas que Charleroi qui perd par rapport aux communes voisines. C'est assez important. Donc on voit par exemple que tous les pôles urbains perdent au profit de leur périphérie. c'est vrai pour Liège aussi, c'est vrai pour Mons, c'est vrai pour Tournai, et c'est vrai pour énormément de communes du Brabant wallon. Donc, ce qui était hier le périurbain n'est plus dans la même dynamique périurbaine. Il se passe tout autre chose aujourd'hui dans une partie, je dirais, centre-ouest du Brabant wallon. Si maintenant on prend une autre carte qui est à l'échelle de l'arrondissement, c'est-à-dire que les communes perdent, mais on voit tout de suite que c'est des communes qui vont perdre un peu plus loin, donc les arrondissements continuent à se développer. Et puis je vais aller un peu plus vite, puisqu'on va voir apparaître, je dirais, des pôles qui sont assez intéressants. Et Jean-Marie Halleux en avait déjà parlé en 2006, c'est notamment, si j'arrive à pointer, toute la partie des communes qui sont entre Liège et Namur, Ouiwarem, qui sont un peu l'espace interstitiel, c'est-à-dire que là, il y a une attractivité pour être entre deux pôles d'emploi, c'est une évidence, qui apparaît toujours aujourd'hui dans les différentes cartes, puisque ceci, c'est un comparatif sur les dernières années. Alors, il y a l'effet de bordure, évidemment, qui joue, ce qui est un biais dans ces cartes-là, mais je ne vais pas y revenir là-dessus. Alors, c'est un échange entre provinces, on voit bien toutes les limites provinciales qui apparaissent, et on voit effectivement qu'il y a toujours les communes qui perdent en population. Tout ça sera accessible sur le site de la CPDT. Vous pouvez voir les cartes, je dirais, plus à votre aise, un peu voir quelles sont les communes qui perdent et qui gagnent. Par rapport aux Bruxellois, je l'ai dit, c'est un phénomène important, mais qui est nettement inférieur par rapport au changement intercommunal dans la Wallonie. Eh bien, on voit où les Bruxellois sont attirés. Des Bruxellois vont à Charleroi, il y a un point vert, donc ça confirme ce qui était déjà identifié par l'IWEPS, mais on voit aussi qu'il y a des Bruxellois qui arrivent à la Louvière. On voit qu'il y a des Bruxellois, plus traditionnellement, qui arrivent dans le Brabant wallon. Et donc on voit là très bien, je dirais, le triangle wallon en termes d'attractivité qui apparaît. Il y a un phénomène évident entre Bruxelles, je dirais, une partie de la Wallonie, là, qui se manifeste. Autre aspect, c'est maintenant tout ce qui concerne, je dirais, l'attractivité plutôt des Flamands. Alors, vous voyez que c'est un, je dirais, un débordement, l'effet de bordure, l'effet de frontière linguistique. C'est vraiment les communes qui sont juste au sud de la frontière qui bénéficient, un différentiel de prix. Je vais revenir sur ces différents critères dans 5 minutes. Et vous voyez aussi que les communes ardennaises, plus traditionnellement, gagnent en population par rapport à l'attractivité, par rapport aux Flamands. Nos amis les Français. Ah, c'est l'autre. Voilà. Alors là, ben, il y a les communes qui sont traditionnellement françaises, c'est les frontières. Hein, donc 10 000 Français habitent Moucron sur 50 000. C'est quand même non négligeable. Donc on voit qu'il y a une série de communes qui est de nouveau un phénomène de bordure, si vous voulez, de frontières. Mais vous voyez aussi que au plus les communes sont foncées ici, au plus elles ont gagné récemment, parfois pas beaucoup, mais elles ont gagné les Français. Ce qui veut donc dire que l'ensemble du phénomène, je dirais, d'invasion est en cours. Liège, évidemment, attractivité, et donc on pourrait trouver d'autres phénomènes, je vais parler de l'âge en 2 minutes, qui vont effectivement expliquer la présence par la population française en Wallonie. Alors, dernier aspect, c'est les populations qui ont demandé une régularisation, principalement, ou une naturalisation plutôt, c'est principalement des populations qui viennent d'hors l'espace Schengen et qui, de la sorte, peuvent bénéficier évidemment du statut plus favorable de pouvoir circuler au sein de l'Europe. Ce sont des Européens, mais qui ne sont pas nécessairement de l'espace Schengen, et donc qui ont régularisé ou qui ont demandé la naturalisation, ou nos amis les Anglais, ce qui est le cas dans le Brabant wallon, puisque vous savez qu'à Waterloo, il y a quand même 20% de la population qui est anglophone. Alors, l'attractivité, bon, je vous ai dit, on bouge beaucoup, mais on ne bouge pas tout le temps. Alors, l'IWEB, ça avait déjà fait une carte, un graphique, si vous voulez, qui est ici. Simplement, ben, on bouge quand on a un changement dans la vie, ce n'est pas nouveau. Il y a eu plein de littérature là-dessus, donc je ne vais pas refaire ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on déménage au plus, on approche la vingtaine d'années, et puis eh ben, on se stabilise, et puis eh ben, on redéménage quand on devient vieux. Donc l'attractivité, c'est bien d'essayer de vouloir attirer la classe moyenne, mais il y a des moments clés du cycle de vie pour attirer la population. Voilà. Donc, on bouge beaucoup. Donc voilà, ici une carte. Alors il y a un phénomène un peu parasite là derrière, mais comme ce sont des cartes, je voudrais remercier Vincent Bottiot qui a travaillé pendant quelques jours et quelques nuits pour produire tout ceci à la dernière minute, qui montre l'aspect des pyramides des âges aussi qui se cachent là derrière. Donc je vais aller très vite et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on n'a pas justement accès à la caractérisation des gens qui déménagent. On sait qu'il y a des gens qui déménagent, mais on n'a pas accès au registre national, donc on ne peut pas voir quelles sont les natures. Et donc on essaie de reconstruire les choses autrement. Donc si un jour on a accès au registre national, on pourra vous donner ça de manière plus fine. Mais ici, je dirais, il y a un peu biaisé, parce qu'évidemment, ici on voit qu'il y a une augmentation des jeunes, mais c'est normal, les jeunes augmentent naturellement, je dirais, dans chaque commune. Donc c'est ça qui se cache là derrière. Mais vous voyez que chaque commune gagne en population jeune, sauf quelques-unes. Par contre, ça c'était le déménagement pour les jeunes. Maintenant, le déménagement pour les vieux. Eux, ils ont en partie un peu d'argent, donc c'est des choses intéressantes à attirer dans la compétitivité qui nous anime tous. Alors là, ben vous voyez, le pôle liégeois, le pôle carolo et le pôle brabançon, qui sont aujourd'hui les trois régions où il y a une concentration assez importante de population âgée. Bon, il y avait des communes traditionnellement âgées, c'est celles qui sont enfoncées. Ça, c'était jusqu'à 70 ans. Alors, comment on va aller jusqu'à 100 ans? C'est ça qui devient intéressant. Donc, les communes qui sont ici continuent à devenir des populations âgées. Et donc, il y a une réelle concentration, je dirais, un défi. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en gris, qui est la révolution grise qui nous attend. Alors, cette révolution, elle va durer quelque chose comme 25 ans. Donc, il faut prévoir, il faut équiper, il faut pouvoir gérer cette question du défi du vieillissement de la population qui caractérise, je dirais, massivement la Wallonie. Alors, ce qu'on peut vous montrer aussi, c'est que l'attractivité et le déménagement, ce n'est pas n'importe où. Même si on est très volontariste et que dans la commune, on veut mettre plein de choses en place, je vais revenir parce que ça, il faut continuer, il y a quand même des phénomènes, je dirais, un peu macro. J'ai montré là, j'ai montré des phénomènes de déménagement d'une commune à l'autre. Mais si on prend ici, par exemple, la commune de Wavre, ben, les gens qui viennent habiter à Wavre, grosso modo, ben, ils ne viennent pas de n'importe où. Bon, ouais, on met en place une politique de requalification du centre urbain, c'est très très bien. Mais malgré tout, il y avait des gens qui venaient quand même habiter à Wavre ces dernières années. On voit que, ben, ce passant, ils viennent le long de la nationale 4 et le long de la L411. Donc il y a un phénomène, si vous voulez, de convergence vers Wavre. C'est encore plus clair pour les gens qui quittent Wavre. Je vous avais dit, ils vont dans les communes voisines, mais ils vont pas n'importe où, dans n'importe quelle commune voisine. Ils s'étirent le long de l'axe. Et donc, il y a une proximité, mais aussi une accessibilité qui est importante à prendre en considération. Ce n'est pas simplement une proximité géographique, c'est une question d'accessibilité évidente. Même phénomène pour Waterloo. Alors, quand on ne sait pas habiter Waterloo parce que ça commence à coûter trop cher, ben on ne se déplace pas n'importe où, on se déplace sur l'axe vers Nivelles et puis sur Charleroi. Alors, soyons volontaristes. Comment on produit de l'attractivité résidentielle? Ceci, j'ai déjà montré, donc pour ceux qui connaissent, vous pouvez faire 5 minutes de break. Mais bon, donc je reviens pour ceux qui ne connaissent pas. Première manière de faire de l'attractivité, c'est la manière de M. Potvin, notaire de son état. Facile, ça coûte pas cher, ça marche très bien et ça attire beaucoup de monde. Ça crée les coûts de la désurbanisation, mais ça, on en a déjà parlé aussi dans la visibilité, donc je ne vais pas aller très loin. En gros, ben, on prend une route existante, il y a de l'éclairage, il y a de l'électricité, etc. Et on prend un notaire et un géomètre, et on vous fait des petites parcelles le long. Et puis, chacun va trouver un architecte, enfin, celui qui achète, va trouver un architecte, essayer de trouver un entrepreneur, essayer de s'en sortir. Et puis, il fait au fur et à mesure de ses besoins la construction d'une annexe, termine le grenier, parce qu'il y a troisième enfant qui arrive, ou bien il y a un divorce, et donc, etc. Donc, c'est l'habitat linéaire, l'autopromotion, comme ça a été très bien expliqué par Jean-Marie Halleux. Deuxième phénomène qu'on connaît encore super bien chez nous, c'est la même chose, mais vous prenez une grande parcelle cette fois-ci, et vous êtes obligé, quelque part, de morceler la parcelle en créant une voirie. Parce qu'elle est tellement grande, donc si vous voulez morceler 3 ou 4 hectares, c'est un article que M. Berthet doit connaître, puisque nous avions produit ceci après une formation qu'on a fait il y a combien? 25 ans maintenant, à peu près. Donc voilà, morceler, vraiment, là on doit faire appel à quelqu'un d'autre qui est un promoteur, qui va avancer l'argent et qui va financer l'équipement de cette voirie. Bon, ça c'est deux modèles qui sont devant des terrains nus. Bon, on a créé un peu de richesse, en tout cas dans le deuxième système, puisque vous avez créé une voirie. Alors là il faut des prescriptions quand même, ça crée de la richesse la prescription. Puisque quand même vous allez avoir une certitude qu'à côté de chez vous, vous n'allez pas avoir un igloo ou une yourte. Donc voilà, vous avez des gens qui vous ressemblent et ça crée de la richesse, le fait que vous soyez avec une certaine certitude. Dans l'autre système, ben, c'était pas compliqué, vous aviez acheté, la valeur, elle existait, c'est le paysage.
Évidemment, dans le système numéro 1, si un uluberlu qui vient construire, ben, c'est vous, il vous a piqué votre valeur. Scandaleux. Bon, bref. En attendant, ça veut donc dire qu'il y a là un phénomène dynamique. Votre présence crée de la valeur. Et c'est ça qui est intéressant dans l'économie résidentielle, ce qui est très bien expliqué ce matin. Alors, on va sortir de ces deux systèmes-là qui sont la production foncière et on va entrer maintenant dans la production immobilière. Le premier est classique, et même l'habitat social faisait partie de ça, mais en gros, c'est quelqu'un, un promoteur, qui va construire du logement et bah, il va appeler ça résidence. Ça crée de la richesse. Résidence du lac, résidence machin, résidence du parc. Bon, il a mis une série d'équipements, du parking, il a mis un ascenseur, il y a une copropriété qui va gérer tout ça, parfois ça crée des économies, on est d'accord aussi. Mais ça crée, voilà, là vous avez, ça coûte plus cher, parce que voilà, tous ces équipements, et en plus le promoteur, ben, comme il a avancé beaucoup d'argent cette fois-ci, ben, il aimerait bien que ça lui rapporte un peu plus, puisqu'il a pris des risques. On ne fait pas que de l'appartement, on fait aussi de la maison comme ça, de plus en plus, bon voilà. Jusque-là, on n'a pas créé beaucoup de richesses. Et le dernier, vous le connaissez, c'est celui qui crée vraiment de la richesse. C'est celui qui fait un morceau de ville. Alors normalement, c'est les pouvoirs publics qui doivent faire ça. On les fait un petit peu, rassurez-vous. Mais je pense que c'est aussi des privés. Ici, c'est le parc de l'Alliance, à Braine-l'Alleud, ça peut être plus bas à la Neuve, ça peut être des quartiers nouveaux. C'est-à-dire la capacité, à un moment donné, de parce que je vais construire non pas du logement, non pas faire une offre foncière non plus, mais je vais créer une complémentarité des fonctions. D'abord, en tant que promoteur, c'est super, je divise mon risque, hein, je fais un peu de commerce, je fais un peu de bureau, je fais un peu de ceci, je trouve un accord avec le bourgmestre, bon, je vous fais une crèche, ok, d'accord, tout ça. Ça crée de la valeur, cette complémentarité crée de la valeur. Et ici, je prends toujours cette photo-là, parce que c'était, les berges du ruisseau, ben, c'est simplement un bassin d'orage qui est une obligation, on en fait un plan d'eau, et puis tout le monde trouve que ça fait vraiment super bien d'habiter face à un petit étang. Et ça crée de la valeur. Et c'est ça qui est important dans le boulot qui nous occupe. C'est de trouver les complémentarités entre les fonctions. On s'est battu pendant 50 ans à trouver les choses qui étaient incompatibles. Aujourd'hui, on doit retourner à une certaine mixité et savoir qu'est-ce qui, fait par une proximité, par un montage de projet, fait qu'on a créé un effet cumulatif. Bon, donc là-dessus, vous connaissez aussi, c'est pas facile partout. Hein? Dans les quartiers nouveaux, où j'ai présenté ça il y a déjà 2-3 ans maintenant, c'est plus facile là où il y a de la richesse déjà. Faire de la richesse là où les gens sont riches, bah oui. Namur, hein? Nivelles, ben ça marche. Vous avez là une capacité à faire des quartiers nouveaux facilement. Ouais, vous pouvez négocier hein, les charges, etc., c'est facile. Si vous êtes par contre à Virton, à Thouin et à Philippeville, attention, ça va être plus compliqué. Bon, ne fût-ce que parce que le prix révélateur du foncier ou de la maison. Hein, on passe de 1 à 10, de 1 à 40. Donc il y a un réel différentiel. La Wallonie n'est pas homogène. Appliquer une politique à travers la Wallonie implique, je dirais, de la nuancer. On n'a pas les mêmes leviers partout. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a produit beaucoup ces derniers temps? L'appartement. Donc, c'était animé, mais ça ne s'anime plus. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Je vais le faire comme ceci. Ça, c'est la quatre façades. Le wallon. Moi, j'ai montré ça il n'y a pas longtemps pour ceux qui étaient là, hein, à la maison de l'urbanisme, du Brabant wallon. On ne produit plus de quatre façades en Wallonie. Enfin, si, on en produit toujours, mais nettement moins qu'avant. Par contre, l'appartement, le petit graphique en dessous explique ça. D'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau. On a produit de l'appartement, vous allez à Nivelles, vous allez à Liège, vous allez à Évreux, on produit de l'appartement. Les années 60, 70 ont été très bonnes dans la production. Et puis, il y a eu un petit creux. Alors, principalement, quand on discute avec les promoteurs, c'est ce phénomène-là qui l'explique. Les taux d'intérêt bas. Qui croisent. Et donc aujourd'hui, on ne fait pas de l'appartement pour loger des familles. On fait de l'appartement spéculatif. Donc il y a une série de personnes, non seulement il y a des communes qui sont riches, mais il y a une série de personnes qui sont assez riches en Wallonie que pour savoir ne plus quoi faire de leur argent, ça rapporte rien à la banque, et donc aujourd'hui, on fait de l'appartement. Et les promoteurs, ils sont là, et il y a un marché. Ce qui veut donc dire que le locatif va augmenter. Et donc la question de l'augmentation du déménagement est un phénomène qui va augmenter substantiellement, on va le dire, les prochaines années. Bon, peut-être qu'on produit trop d'une chambre, parce qu'évidemment, tous ces spéculatifs, là, ils ne vont pas faire du trois chambres. Hein. Quand vous êtes à une trois chambres, vous êtes à une maison unifamiliale, c'est le même prix. Donc on est principalement sur une production qui est un peu déséquilibrée. Donc faites gaffe, il y a trop d'appartements, une chambre sur le marché. La carte qui est là, c'est principalement la production d'appartements. Vous voyez que toutes les communes sont quand même touchées. Le phénomène est en train d'être contagieux. Alors, pour ceux qui connaissent aussi, je vois qu'il y a certains anciens étudiants dans la salle, donc voilà, vous pourrez retrouver des images. Qui crée l'attractivité? Quels sont les concepteurs de l'attractivité? Alors, il y a quelques urbanistes. Hein, on va en prendre un, puisque Barcelone, voilà. Cerdà, super. Le mec, il a inventé un truc qui s'appelle l'urbanisme, 1860. Vous aviez Barcelone, petite ville, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour que Barcelone puisse s'adapter, être compétitif, et l'économie industrielle qui commençait à l'époque, il faut organiser Barcelone, il faut pouvoir équiper la circulation, il va falloir mettre des égouts, il va falloir mettre du tramway, etc. Et pour ça, il va falloir organiser, et donc il paramètre tout ça. Bon, je vous laisse aller voir ça, c'est génial. Ça reste d'une actualité saisissante. Pas seulement Barcelone, sous le plan de l'indépendantisme. Il y a un autre qui a fait ça aussi à Paris. Bon, on va pas parler de Johnny, mais bon. Alors ça, c'est une autre technique, un peu plus barbare. C'est, je fais de Paris ville royale, révolution française passée par là, mais je continue, je mets un peu d'ordre, parce que quand même on est quand même dans l'Empire, hein, donc il faut tirer sur la commune, et donc qu'est-ce que je fais? Je prends un bulldozer et je date Paris, je reconstruis la ville sur la ville. Hein, donc les petites ruelles, j'en fais des boulevards, enfin, je mets tout ça ensemble. Voilà, autre manière de faire de l'adaptabilité, et c'est très attractif, hein. Avec ça, vous avez les Jeux Olympiques dans quelques années. Donc ça marche. Non, mais ça veut dire aussi qu'il y a une tradition. Un autre, là. Voilà, ça, on le connaît mieux chez nous, Cité Jardin, Howard. Lui, il va dire, moi, je ne fais pas la ville sur la ville, c'est trop compliqué. Donc, hop, on va aller à la périphérie. Je vous mets... Alors là, c'est intéressant, c'est qu'il dit que pour faire une ville attractive, il ne faut pas être trop nombreux. Hein? La ville tentaculaire, c'est ingérable. Donc lui, il est plus modeste, il dit, moi, je vais vous faire des trucs... Ville nouvelle, 50 000 habitants, un chiffre sacré. Avec ça, voilà, 50 000 habitants. 50 000 présentiels qu'il faut parler. Pas des habitants, des présentiels. Donc on a atteint ça. Ah oui, j'ai bientôt fini. Donc, voilà. Donc Howard, vous allez relire ça, les cités-jardins. Et puis l'autre, là, Le Corbusier, lui, c'était comment mettre, je dirais, la modernité au service de tout le monde. Et donc, c'était un discours sur l'équité. Assurer un logement à prix, tout le monde doit avoir la lumière, tout le monde doit avoir une cuisine équipée, tout le monde doit avoir des sanitaires dans sa maison, etc. Donc l'attractivité se déplace sur le logement, sur la monofonctionnalité. Alors, bon, très vite, aujourd'hui, on n'est plus dans ces courants-là. Aujourd'hui, vous faites l'écoquartier, super, je vais aller très vite. Il y a un autre discours, c'est que l'écoquartier, c'est bien, enfin, l'énergie et tout ça, mais il vaut mieux faire du quartier durable, donc, je ne vais pas revenir sur ça, mais c'est intéressant, il y a deux concepts. Troisième concept, ça c'est la smart. Hein, voilà, c'est mieux. On optimalise tout, on met des paramètres partout, on met une ville qui est gérée de manière... Et avec ça, on fait de la compétitivité parce qu'on est bien, on est des bons gestionnaires, on entre dans le 21e siècle. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais tout ça c'est très bien, mais s'il n'y a pas du lien social, ça ne marche pas. Et donc vous avez l'autre concept qui est la ville en transition. Ça, c'est quatre politiques, quatre modèles, si vous voulez, aujourd'hui, qui font l'attractivité. Alors, qui fait l'attractivité? Les architectes, si je suis architecte, je suis urbaniste. Bon, bref, moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce discours-là. D'autant que l'architecte, aujourd'hui, il met du verre partout, il fait des bâtiments qui ne ressemblent plus vraiment à des maisons, il fait des trucs avec des machins. Bon, bref, moi, je ne sais pas très bien. Après, il y en a d'autres qui vous vantent la ville comme comme du marketing, quoi. Venez chez nous, on est bon en ceci, on va faire un événement. Enfin, bon, bref, c'est une autre manière de faire l'attractivité. Il y en a un autre, c'est les anciens planificateurs. Eux, ils ne sont plus des planificateurs puisqu'ils n'ont plus la force du plan, hein, pour autant qu'ils l'aient eu un jour. Et donc, on fait des schémas concepts maintenant. Hein, c'est un truc très à la mode, vous allez voir, ça va se revenir, ça. Puis, il y a ceux qui font du métabolisme urbain. Alors ça, c'est l'attractivité aussi. Elles vous montrent que dans leur ville, on fait des circuits courts. Hein. On vous montre que chez vous, ça, c'est un truc très intéressant, vous allez pouvoir avoir votre propre énergie. Il y a un défi monstrueux sur la capacité de garantir demain que votre énergie ne coûtera pas trop cher. Et les régions aujourd'hui qui arrêtent les aides à la diversification n'ont rien compris. Bon. Alors, autre chose, c'est deux statuts, si vous voulez. Déjà dans les années 30, il y avait une réflexion sur c'est quoi celui qui fait justement du développement. Et là, il y avait un concept, c'était, on n'est plus les chirurgiens, nous, on n'est plus Haussmann, on n'est plus l'hygiénisme, etc. On est devenus les chefs d'orchestre. Donc déjà, dans les années 30, le développeur se présentait comme quelqu'un qui devait faire fonctionner plusieurs musiciens, que ça ne fasse pas trop la cacophonie, il y avait une partition, donc il y avait une certaine idée. Aujourd'hui, peut-être qu'on a quitté ce chef d'orchestre, quoique certains pensent qu'ils sont toujours les chefs d'orchestre. La mélodie continue. Mais je pense qu'on est peut-être au niveau de la négociation. Parce qu'on n'a pas justement cette capacité à être directeur de l'orchestre. Alors aujourd'hui, et c'est là que je termine, peut-être que il faut davantage penser, nous tous, qu'on fait un peu la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de créer des plats qui sont harmonieux. On essaye d'être imaginatif. On essaye d'avoir une brigade de cuisine, etc. On essaie d'avoir des étoiles, et puis le jour où on a des étoiles, c'est-à-dire que vous êtes reconnu comme ayant une attractivité, tous les chefs disent c'est trop lourd à porter. Demandez l'avis au bourgmestre de Tigny-Louvain-la-Neuve d'être la commune qui est celle qui a la meilleure attractivité. Il est au top, il sait plus ce qu'il doit faire pour rester au top. Autre, moi j'aime bien ça, couturier. C'est-à-dire une capacité d'abord à faire du tissu, à rapiécer, à mettre en beauté, à ajuster. Je trouve que c'est vraiment un métier qui est le nôtre, quelque part. Et puis je vais terminer sur celui-là. Pas parce que c'est un star system, même dans le film on parle un peu trop, mais peut-être qu'aujourd'hui on est plus des jardiniers, c'est-à-dire une capacité à générer des graines, à harmoniser avec le climat, avec la question du relief, avec la question de l'eau, avec la question des épidémies, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, et comment on rend les choses jolies, attrayantes et belles. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.